pour imaginer un petit peu dans quel état je me trouvais depuis plusieurs semaines. Pour me rendre à la consultation, j'étais couché sur le siège arrière avec les deux pieds collés sur le plafond de la voiture. C'était la seule position où je pouvais tenir un trajet de plus de 30 minutes finalement.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Dans cet épisode, nous allons emprunter la ligne de douleur, celle qui relie nos vertèbres lombaires à nos orteils, la sciatique. Et vous l'avez déjà peut-être ressenti, cette douleur qui démarre dans le dos et s'infiltre comme un éclair le long de votre jambe. Car en Suisse, près de 10% de la population est affectée par ce douloureux trouble nerveux qui commence systématiquement avec une hernie discale. Pour Nicolas, c'est en 2017 qu'on la découvre.
On m'a diagnostiqué une hernie discale qui m'ennuyait pas trop à ce moment-là, puis l'examen surtout n'était pas destiné à diagnostiquer ça, mais c'est sorti par hasard. C'est vrai que j'avais souvent des soucis de dos lorsque normalement je portais des charges ou après du jardinage ou même après certains sports. À l'époque, je jouais beaucoup au tennis. J'avais des fois des douleurs dorsales suite à ça, mais sans plus m'inquiéter. Et lorsque on m'a diagnostiqué cette hernie discale, le neurologue qui me suivait m'a dit « Il faut laisser, ça va sécher, elle va partir. Aujourd'hui, on n'opère pas. » Et puis, cette hernie discale, elle s'est faite un peu discrète au fil du temps. J'y ai plus trop pensé. De temps en temps, j'avais des douleurs, mais qui n'étaient pas invalidantes, qui étaient désagréables, ça lançait dans la jambe, mais rien de bien terrible.
Le docteur Jimmy Villard, neurochirurgien à la clinique Cécile, nous explique comment la hernie mène à la sciatique.
La particularité du disque intervertébral, c'est que il n'y a que deux parties dans le corps humain qui ne sont pas vascularisées. Il y a le cristallin et le disque, ce qui fait que ce disque il va subir les outrages du temps et il n'aura pas de capacité de réparation. La hernie discale, c'est une déchirure de l'anneau qui protège le disque et qui va permettre à ce liquide qui est un peu gélatineux de sortir où il ne devrait pas et d'entrer en contact avec le nerf. Et donc, dans l'histoire typique de la sciatique, ça commence par un lumbago qui est la manifestation de cette déchirure du disque qui dure quelques jours. L'inflammation s'installe et les douleurs commencent à migrer vers la jambe et c'est là qu'on parle de sciatique. Le terrain principal est génétique. On a remarqué dans des études que en fait, la génétique allait déterminer la propension de cet anneau fibreux de résister aux contraintes mécaniques. Et donc, il n'est pas rare dans les familles d'avoir les mêmes disques qui sont usés. Et dans les grandes études avec des vrais jumeaux, on s'est rendu compte qu'avec le temps, les jumeaux, quel que soit leur travail, avaient la même usure des disques. Il y a des composantes qui sont aussi environnementales et on se rend compte que plus la musculature du dos est importante, plus elle va protéger le dos de ce genre de pathologie.
La hernie de Nicolas reste silencieuse jusqu'en décembre 2022.
Je me suis couché le soir, j'étais bien. Au réveil le matin, impossible de me lever. Impossible de me mettre sur mes jambes, impossible de tenir même la force dans ma jambe gauche. J'ai tout de suite contacté mon médecin traitant, qui a pris ça très au sérieux, parce que j'avais même de la peine à me mettre sur la pointe des pieds, qui m'a tout de suite organisé une nouvelle imagerie, une IRM, rebelote, diagnostic à nouveau d'une hernie discale qualifiée de très volumineuse. Et puis dans la foulée, puisqu'on était au mois de décembre et que j'arrivais pas à appuyer sur mon embrayage, j'arrivais pas à conduire, j'arrivais même pas à être assis, mon médecin m'a dit on va organiser avant les fêtes, on peut pas vous laisser passer les fêtes comme ça, on va organiser une infiltration, ce qui a été fait. Et j'ai eu une infiltration le 22 décembre, donc juste avant Noël. Le radiologiste interventionniste qui m'a fait ça a dit « ça va vous soulager, mais ce ne sera pas suffisant à mon avis parce que cette hernie est vraiment volumineuse ».
C'est des situations qui peuvent être dramatiques dans la vie du patient parce que ça nous tombe dessus un peu comme une rage de dents. Effectivement, le côté invalidant rend la situation assez urgente pour le patient. Alors c'est vrai qu'avec le temps, on s'est rendu compte que l'histoire naturelle de la hernie, c'était la guérison sans chirurgie. La chirurgie reste assez spécifique pour certains cas de figure, mais disons environ 85% des patients vont guérir de leur crise de douleur sciatique avec un traitement adéquat sans chirurgie. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de déficit moteur. Nous, comme neurochirurgiens, c'est vraiment la crainte qu'on a, qu'il y ait des zones d'insensibilité ou des fourmis. C'est moins inquiétant que tout d'un coup un pied qui ne répond pas au niveau moteur. En ça, ça vaut la peine de consulter assez vite un spécialiste s'il y a un doute, parce que dans ces cas-là, c'est des rares cas où la chirurgie peut avoir un impact et peut être recommandée. Mais disons, dans la plupart des cas, le traitement avec des anti-inflammatoires, de la physiothérapie, des antalgiques, permet de contenir la douleur. Et le corps va faire le nécessaire en rongeant cette hernie qui va se déshydrater. La compression du nerf va se relâcher. Et en l'espace de 6 semaines à 3 mois, on arrive à une guérison de la symptomatologie sans avoir à intervenir au niveau chirurgical.
L'infiltration m'a fait du bien. Elle m'a soulagé pendant quelques jours, mais pas très longtemps, parce que dès les fêtes passées de Noël, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Moi, je fais beaucoup de marches à pied, beaucoup de randonnées. J'arrivais plus à marcher. J'arrivais plus à attacher mes lacets. J'arrivais toujours pas à conduire. Vraiment, le mouvement d'appui sur mon embrayage était impossible, puisque c'était du côté gauche. Et puis, début janvier, j'ai refait un point de situation avec mon médecin pour lui dire « Écoutez, ça va pas du tout ». Et il m'a dit « Alors, il faut que vous alliez consulter un spécialiste pour imaginer un petit peu dans quel état je me trouvais depuis plusieurs semaines. Pour me rendre à la consultation, j'étais couché sur le siège arrière avec les deux pieds collés sur le plafond de la voiture. C'était la seule position où je pouvais tenir un trajet de plus de 30 minutes finalement. » Pour d'autres raisons liées à une pathologie, je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire. Donc j'étais très limité aussi avec les antalgiques, un peu de dafalgan, mais à cet état de douleur, ça ne faisait pas grand-chose. Donc je suis arrivé à la consultation, deux, trois mouvements faits par le neurochirurgien, et très vite, il est arrivé à la conclusion que l'infiltration, donc n'ayant pas porté les fruits qui étaient escomptés, qu'il fallait en venir à l'opération. Au niveau des nuits, ça dépendait. Certaines positions élançaient énormément et puis me réveillaient. Lors de la consultation, le neurochirurgien m'a donné quelques conseils où je devais placer des coussins, quelles étaient les positions qui me permettaient de soulager, ce qui m'a aidé en fait de patienter jusqu'à la date fatidique de l'intervention. Et me voilà donc arrivé un lundi en fin d'après-midi à la clinique pour me faire opérer le mardi matin.
Dans les indications chirurgicales, c'est somme toute assez simple. Il y a la faiblesse de la jambe, du pied ou de la cuisse, ce qu'on appelle une parésie, qui est assez sévère pour qu'on décide d'y aller chirurgicalement. Le rationnel derrière étant de se dire, probablement que la composante douloureuse disparaîtra avec le temps, mais mettons le nerf au plus vite dans les meilleures conditions pour qu'il récupère. Et ça, c'est les rares cas où la chirurgie est meilleure que le traitement conservateur dans les premières heures ou les premiers jours. Donc le déficit neurologique est une des causes. La deuxième, c'est des troubles sphinctériens, parce que la hernie peut être tellement large, faire assez peu de douleur, mais provoquer des incontinences urinaires ou fécales. Donc ça, c'est un symptôme majeur où aussi, il ne faut pas traîner et voir un médecin rapidement, pas forcément un spécialiste, mais les centres de premier recours, en tout cas pour une évaluation rapide. La douleur qui persiste malgré un traitement conservateur intensif et correctement mené, donc avec des anti-inflammatoires, éventuellement une infiltration, de la physiothérapie, puis qu'on voit qu'après 6 semaines à 3 mois, on n'a pas d'amélioration, ça fait partie des critères chirurgicaux. Dans des rares cas où le patient n'en peut plus, on lui donne des opiacés, il n'a pas de déficit, on est un peu à la limite de tout ce que les médicaments peuvent apporter, eh bien, il y a aussi l'indication chirurgicale.
Alors, l'opération en elle-même, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est quand même 6 semaines d'arrêt de travail, hein, entre l'opération et la récupération derrière. Et puis, l'opération en elle-même, on ne voit pas grand-chose. C'est sous anesthésie générale. Ça dure, grosso modo, entre 2 heures et 2 heures et demie, je pense, ce que j'en ai compris. On ne voit pas grand-chose. Et puis, miracle, vous sortez du bloc, il n'y a plus de douleur. C'est immédiat, c'est-à-dire que l'hernie discale est une déformation du disque, je l'exprime comme je l'ai compris, mais on me l'a bien expliqué, qui vient comprimer le nerf, et dès qu'on libère cette pression sur le nerf, c'est le soulagement absolu, c'est-à-dire que le nerf respire et les douleurs disparaissent. Le soir même de l'intervention, soit 3 heures après être sorti du bloc, j'étais debout. Je pouvais marcher dans ma chambre, je ne sentais plus aucune gêne, plus de douleur dans ma jambe gauche, alors qu'elle me faisait terriblement souffrir. C'était une vraie libération.
La prise en charge des hernies discales au niveau chirurgical se fait par technique minimalement invasive, avec l'idée de ne pas abîmer la musculature et les articulations et la colonne elle-même. L'intervention en elle-même se fait sous anesthésie générale dans la plupart des cas. Il faut que le patient soit le plus endormi et stable possible. Il est possible aussi de la faire sous anesthésie locale, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça reste pour des cas assez exceptionnels. On va repérer le niveau de la hernie. On a 5 vertèbres lombaires, donc il faut qu'on soit au bon endroit. On va limiter l'incision à l'endroit où il y a la hernie en profondeur. On va disséquer la musculature, ouvrir le canal pour être à l'endroit de la hernie. Et puis, avec les techniques microchirurgicales, on va dégager le nerf de sa hernie discale, ronger. On a des toutes petites pinces millimétriques qui nous permettent de retirer les fragments herniaires, libérer la pression sur le nerf et petit à petit, le nerf va se relâcher. Une fois que la racine est libre, nous, on la voit sous le microscope ou sous l'endoscope qui commence à pulser, qui a de nouveau des pulsations du liquide céphalorachidien qui la traverse. Et on va faire ce qu'on appelle l'hémostase, donc éviter qu'il y ait du sang qui soit en contact parce qu'on est dans des espaces très restreints. Donc même un petit poids de sang peut faire des douleurs horribles en post-opératoire. Donc c'est quelque chose où on doit être très méticuleux. On ferme la peau des muscles, on ferme la peau et puis le patient est réveillé.
Et comme pour toutes les interventions, le risque zéro n'existe pas, mais il est tout de même limité.
Il y a une misconception assez importante chez les gens, c'est qu'il n'y a plus de moelle épinière au niveau lombaire. C'est-à-dire que le nouveau-né a sa moelle épinière tout en bas, mais le squelette va grandir plus vite que la partie neurologique. Et petit à petit, cette moelle épinière va migrer pour se retrouver à la jonction entre le thorax et la colonne lombaire à l'âge adulte. Ce qui fait que les conséquences d'une opération d'hernie discale au niveau cervical ou au niveau lombaire sont drastiquement différentes. Au niveau lombaire, on n'a pas la moelle épinière, donc on a beaucoup moins de risques d'avoir des problématiques de paraplégie ou autres, c'est vraiment anecdotique. Les risques de l'opération, ils sont essentiellement triples. Il y a 2 risques qui sont non spécifiques. C'est le risque d'infection, parce que la peau, c'est notre barrière contre les infections, et on va devoir ouvrir cette barrière. C'est pour ça que durant l'opération, on va donner des antibiotiques. Le deuxième risque, c'est que comme on travaille dans un espace confiné, on n'est pas comme dans un ventre où on peut le gonfler avec du gaz, tout est très serré, on crée l'espace pour aller enlever cette hernie discale, eh bien un hématome de la taille d'un petit pois peut suffire à être aussi gros qu'une hernie et faire aussi mal qu'une hernie. Donc l'hématome, c'est une vraie complication. Cette complication-là, on la voit dans les premières 24-48 heures, raison pour laquelle on a tendance à hospitaliser les patients qu'on opère pour qu'ils soient sur place. Les infirmières ont l'habitude des symptômes et du coup, on peut réagir assez vite. Et le dernier risque, c'est que comme les nerfs, on va les manipuler, on va devoir décoller à certains moments la hernie discale du nerf, on peut faire ce qu'on appelle une brèche, donc un trou dans le sac que contient le nerf, et on le voit tout de suite, quel que soit le moyen d'opérer qu'on utilise, parce qu'il y a du liquide qui sort du nerf, c'est le liquide céphalo-rachidien, et on va comme chirurgien du dos, réparer cette brèche. Ça prolonge de quelques minutes l'opération, c'est pas dramatique, mais c'est un des risques de cette opération. Ce risque, si la suture n'est pas parfaitement étanche, le patient peut avoir des maux de tête importants quelques semaines après l'opération, et c'est pour ça qu'on informe le patient si tout d'un coup il y a une brèche pendant la chirurgie. Ces trois risques-là, ils sont de l'ordre d'à peu près 2,5% selon la littérature, sachant qu'il n'y a pas de risque irréversible comme la paraplégie. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment, si on voit que le traitement conservateur échoue, qu'il y a déficit neurologique, la mise en balance de ces 2 ou 3% de risque par rapport aux 95-97% de patients qui sont très bien à 3 mois, fait qu'on a tendance à proposer la chirurgie.
Le sentiment, c'est une victoire incroyable, c'est de se dire, lorsqu'il y a une intervention chirurgicale, il y a toujours un risque, il faut peser le pour et le contre. Mais moi, c'était juste la libération totale où je me suis dit, c'est une fois que je l'ai fait, que je l'ai eu fait, que je me suis rendu compte qu'elle me pourrissait la vie depuis des années, cette hernie discale. Parce que entre le avant et le après, je suis un autre homme au niveau de ma mobilité, je suis un autre homme au niveau des mouvements que je peux faire, je suis beaucoup plus fluide, j'ai plus du tout de douleur. Je me sens beaucoup, beaucoup plus simple pour moi de me baisser, d'attacher mes lacets, de vivre au quotidien. Et tout ça, avant, il y avait une gêne, et puis on ne s'écoute pas beaucoup, puis on se dit « Ah, ça fait un peu mal, c'est pas grave, on verra plus tard. Enfin, » on a mieux à faire que d'aller consulter des spécialistes. Mais alors là, il a fallu, malheureusement, je dirais, attendre cette casse, cette crise aiguë, qui m'a vraiment invalidé pendant plus de 2 mois pour que je prenne conscience que j'avais ce problème qui traînait depuis 2017 voire avant, et il faut vraiment avoir vécu l'après pour se rendre compte que avant j'étais pas invalidé, mais j'étais vraiment ennuyé au quotidien dans mes mouvements. Au niveau des douleurs post-opératoires, il y a eu très peu de choses. Alors j'ai eu quand même quelques douleurs au niveau du nerf parce que l'hernie discale était assez volumineuse, et puis il a fallu trifouiller un peu dans le nerf pour bien l'extraire. Donc c'est juste soigné avec 2 jours de cortisone, les douleurs ont complètement disparu, et depuis plus du tout de douleurs. Petit peu de gratouillement au niveau de la cicatrice. Donc l'incision, on voit presque rien. C'est une petite balafre de 3 cm de large. Donc autant dire rien du tout sur le bas du dos. Et après 3-4 semaines, on peut commencer à planifier une vraie rééducation avec de la physiothérapie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout de suite après l'opération, le lendemain, j'avais déjà un physio de la clinique qui était là pour débuter les premiers exercices. Les premiers exercices, toujours retrouver une mobilité au niveau des lombaires, travailler des exercices très doux à faire coucher, mais des exercices dont je devais augmenter les séries chaque semaine pendant les 4 premières semaines. Donc là, il faut faire très attention. C'est vrai, on sent, c'est très fragile. On n'a plus de douleur, mais faut pas faire le fou. Dès qu'on fait un faux mouvement, on ressent que ça tire, on ressent que c'est encore quelque chose qui est sensible, mais c'est des douleurs qu'on génère. Ce n'est pas des douleurs qui existent. Et puis, après 4 semaines, j'ai pu commencer la physiothérapie. Et puis, là aussi, on rapprend les bons mouvements. On voit tout ce qu'on fait de faux depuis toujours. Moi, j'ai 50 ans. Je pense que ça fait 50 ans que je porte faux. Ça fait 50 ans que je fais tout faux quand je me baisse. Ça fait 50 ans que je ne sais pas soulever une caisse de quelque chose du sol pour la mettre dans mon coffre. Enfin, voilà. Et puis, on réapprend ça. On réapprend comment on fait pour gainer, en fait, toute la musculature profonde, les dorsaux, les abdominaux. Je me réjouis de l'été d'avoir des belles plaques de chocolat exhibées parce que finalement je gaine tout le temps. Non, ça se voit pas, c'est plus pour rigoler, mais je veux dire, on apprend à gainer avant de soulever un poids, et vraiment là maintenant j'ai eu cette intervention ça fait 3 mois, mais pour moi c'est, je vais pas dire un mauvais souvenir, c'était un bon souvenir, parce que j'ai eu un très bon séjour, et vraiment c'était libératoire. mais je vis aujourd'hui normalement. J'ai juste encore des choses où je dois faire attention, pas porter de charge en rotation. Parce que pendant, je crois, 6 mois, il faut encore faire attention avec la cicatrice. Mais autrement, je revis complètement normalement.
Alors, le patient recevra durant son séjour hospitalier une instruction par nos collègues physiothérapeutes qui lui apprendront à fonctionner avec la blessure qu'on lui a faite chirurgicale. On a des patients qui d'emblée vont bien, qui vont pouvoir recourir, refaire du sport assez rapidement. D'autres qui pourront pas s'asseoir pendant quelques semaines parce que ça irrite le nerf et ça va pas. Donc, le mot d'ordre en général, c'est de faire selon la tolérance du patient, qui s'écoute, en évitant d'avoir des douleurs pendant l'activité, et puis des douleurs le lendemain, parce que des fois, quand on est chaud, ça va, puis c'est le lendemain qu'on paye. Un des dangers, c'est la récidive, surtout précocement, vu que le disque ne se répare pas. Et dans les suites post-op, ben, c'est là où on est un peu plus à risque, parce qu'il n'y a pas encore de fibrose, il n'y a pas encore de cicatrice qui protège un tout petit peu. Et donc, on va rendre le patient attentif au danger des torsions de tronc, parce que c'est là qu'on peut rééjecter du matériel et faire une récidive de hernie discale. Donc, l'idée, c'est vraiment bouger autant que faire se peut, en dessous du seuil douloureux. Et puis, c'est vrai que de la médecine paternaliste d'il y a 15-20 ans, on est plutôt à accompagner le patient pour qu'il bouge au maximum, parce que ben, de nouveau, un dos qui bouge, c'est un dos qui va bien. Et puis, on ne veut pas, surtout pas que la musculature se déconditionne et que le patient reste alité et puis perde du muscle qui sera dur à regagner, puis la porte ouverte à des lombalgies, à plein d'autres choses. La prévention, c'est le grand chapitre et c'est une grosse partie de notre activité comme spécialiste du dos, parce qu'effectivement, dans un cas où on a eu un problème, où on a mal au dos, la réponse la plus efficace, c'est d'adapter la musculature à l'usure du temps. C'est-à-dire que si on regarde les colonnes cervicales, à partir de l'âge de 20 ans, tout le monde a de l'arthrose. À partir de l'âge de 40 ans, on est assez égaux, on a tous de l'arthrose lombaire. Maintenant, on n'aura pas tous mal au dos. Et souvent, si on prépare bien la musculature, c'est en fait la musculature qui tient le dos plus que l'os. Et avec une bonne musculature, on arrive à avoir un dos qui fonctionne bien. C'est pour ça qu'on recommande beaucoup le gainage, le gainage isométrique sans faire trop de mouvements, c'est-à-dire typiquement la planche. Et puis ça, je pense que pour tous les auditeurs, c'est le meilleur traitement qu'on puisse recommander. Le mouvement, la marche, d'avoir ben, de nouveau ce mouvement, parce que le mouvement aussi va favoriser la musculature, va éviter des points de contact, des points de douleur. Et puis, dans le cadre du patient qui a été opéré, ben, ce programme-là, on va l'adapter au fait qu'il y a une blessure extrinsèque qui est due à nous, à nous chirurgiens, et on va faire une reprise progressive des activités sportives les 6 premiers mois. Il va reprendre un petit peu tous les sports jusqu'à 3 mois, et puis avec l'idée de retrouver son niveau entre 3 et 6 mois. Quoi. Le danger, c'est la torsion du tronc. C'est en tout cas là où nous, on revoit le plus de patients, parce qu'une torsion de tronc, même rapide, avec une valise ou avec une pelle de neige, ben ça peut être une contrainte trop importante pour le disque, et c'est dans ces contextes-là qu'on voit des récidives. Ça fait partie aussi, l'hygiène posturale fait partie aussi de la prise en charge physiothérapeutique, et puis on leur apprend à travailler de manière le plus correcte avec le dos et à changer certaines habitudes pour le mieux.
Nicolas, lui, a repris ses habitudes de marche en montagne à un rythme quotidien, en y ajoutant quelques nouveaux réflexes.
En marchant, la physio m'a appris à gainer. À apprendre à respirer comme on pouvait gainer pendant une heure et demie en faisant de la marche. Et c'est ce que je fais maintenant systématiquement. Dès que j'y pense, si je suis au volant, parce que j'ai pu reconduire, donc ça on retrouve aussi un confort de vie à avoir une mobilité qui ne dépend pas que des transports publics. Maintenant, quand je conduis, je pense à gainer. Quand je suis assis à table, des moments, je pense à gainer. Enfin, c'est comme un réflexe qu'on prend. Et je pense que plus on arrive à solidifier cette musculature abdominale et dorsale, mieux on arrive à vivre au quotidien, puis à limiter des risques de récidive. Je fais encore très attention avec les charges que je porte, même si j'en porte, je fais encore très attention aux mouvements que je peux faire. Le plantage des plantons et des fleurs cette année, c'est ma femme et mes enfants qui les ont fait. Je me suis libéré de cette tâche J'étais celui qui donnait les instructions, ce qui n'est pas plus désagréable non plus.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des informations sur la sciatique en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.